Tu as pêché où? Baobab, acajou.
Dur de la feuille.
Baobab, acajou. Tu as pêché où?
L'émission qui susurre à vos oreilles.
Durant cyprès, pin, élan de palissandre. Mais l'aise tremble, tremble être noyé.
Bienvenue dans un épisode spécial de la série Feuilles de chou. La série qui interroge et nourrit l'information du vivant. Chaque épisode relate une actualité dans ses moindres recoins pour comprendre ce qu'elle signifie pour le vivant. Dans cette lancée si réaliste, je vous propose ensuite un extrait d'un récit fantastique avant de connaître les rendez-vous et éléments précieux à ne pas manquer. Le sujet du jour. 21 août 2023. Publication d'une étude démontrant l'impact positif de la végétalisation en ville sur les populations d'insectes. Quel est le contexte de cette étude et pourquoi s'intéresse-t-on aux populations d'insectes? Quelles sont les expériences menées et quels résultats en émergent pour avancer les bénéfices de la végétalisation en ville? Quels facteurs ont peut-être été omis et pourraient faire basculer les résultats de cette étude? Quels objectifs peuvent avoir ce type de publication à l'échelle du globe? Commençons par décrire la ville pour un insecte. Comme pour beaucoup d'espèces vivantes, l'espace urbain est rude. Pollution, artificialisation des sols, climat particulier fluctuant d'un quartier à un autre, voire d'une rue à une autre. Beaucoup d'allées et venues du monde entier, apportant de nouveaux congénères jusque-là jamais rencontrés. Bref, la ville est un fourre-tout qui se renouvelle si vite que peu d'êtres vivants arrivent à suivre le rythme. Ainsi, lorsque l'on pense insectes en ville, il est rare d'imaginer une collection de papillons de toutes les couleurs. Depuis quelques décennies, un phénomène tend à s'intensifier et à se généraliser. Dans des villes de plus en plus denses, ou gagnant du territoire non urbanisé, on plante des arbres et on tente de préserver, ou en tout cas de faire perdurer, la vie des arbres existants. En Australie, lieu de l'étude en question, un programme de replantation sur le pays a été lancé en 2019. Objectif: planter 1 milliard d'arbres afin de réduire les effets des hausses de température sur le pays. Ce programme s'appuie largement sur une autre étude parue il y a quelques années en Suisse et démontrant que la plantation de 3 trillions d'arbres sur la Terre serait une solution majeure pour contrer le réchauffement climatique. L'étude du jour est moins ambitieuse dans ses prédictions et s'intéresse à un cas pratique de terrain. Durant 4 ans, des chercheurs ont mesuré, dans des quartiers de Melbourne, les interactions entre plantes et insectes, ainsi que la composition des communautés d'insectes. On a ainsi cherché à savoir si ces derniers étaient plus riches en nombre, en diversité, mais également si les communautés, les assemblages d'insectes, étaient suffisamment équilibrées pour proposer des communautés fonctionnelles capables de résister à des perturbations multiples. Ce qui est particulièrement intéressant dans cette étude est que les chercheurs ont choisi un site où ils pouvaient voir des changements radicaux s'opérer. En effet, après avoir fait un état zéro des sites d'étude, ces derniers ont fait l'objet d'une forte végétalisation. Plus de 80% de la surface, initialement très artificialisée et en centre-ville dense, a pu accueillir de nouvelles plantations en retirant le béton, décompactant et enrichissant le sol en matière organique, avant de planter et semer une vingtaine d'espèces locales. Ce projet de plantation est donc dans cette mouvance de recréer des systèmes le plus accueillants possible pour les espèces animales locales. Notons également que la gestion des zones enherbées et la taille des végétaux étaient au maximum réduites pour permettre l'installation d'espèces spontanées, ce que certains appellent mauvaises herbes encore aujourd'hui, puisque ces dernières sont des ressources indispensables et gratuitement offertes à l'ensemble du vivant. sur le terrain. En plus d'identifier et de compter les insectes à la surface, ainsi que la colonisation de l'espace par chacune des espèces, les scientifiques ont recensé les espèces végétales, le climat et toute action de gestion perturbation survenue. Les résultats sont donc les suivants. Après 3 ans, a été constatée une forte augmentation de la richesse en espèces d'insectes, une plus grande probabilité d'apparition d'insectes dans l'espace vert, et un nombre et une diversité d'interactions plus élevées entre les espèces d'insectes et de plantes. En d'autres termes, plus de diversité et des communautés d'insectes plus équilibrées et a priori donc plus résistantes face à des perturbations. C'est ce que tout écologue ou curieux en herbe appelle la résilience. Plus les espèces végétales s'instaurent, plus les herbivores et les parasites de plantes se développent et plus les prédateurs de ces herbivores augmentent à leur tour pour équilibrer naturellement le système. À cela, on rajoute toutes les autres relations des espèces d'insectes entre elles et avec les plantes, tels que lieux de refuge ou de reproduction, et vous obtenez une courbe positive, où les insectes se sentent de plus en plus à l'aise pour vivre en ville, au profit d'autres êtres vivants, tels que les oiseaux ou les chauves-souris. Ces résultats s'ajoutent aux études précédentes, avançant que les espèces indigènes en ville sont très attractives pour des espèces indigènes, devenues plus rares, tout en s'intégrant mieux aux écosystèmes en place, notamment avec les feuilles d'arbres, qui se décomposent plus vite grâce aux micro-organismes locaux qui leur sont attitrés. Passons maintenant à un regard critique de cette étude. Outre les questions que se sont posées les chercheurs sur les tailles minimales de parcelles ou les niveaux minimaux de connexion avec les autres espaces verts de la ville qui vont fournir tous ces insectes, plusieurs autres points se doivent d'être soulevés. Vous souvenez-vous que seuls les insectes de surface ont été répertoriés. N'est-il pas étrange de regarder un résidu de surface de l'immensité qui agit en silence sous nos pieds? Pour rappel, 2/3 des espèces connues vivantes sur notre planète sont dans nos sols. Minute. Et les sols dans toute cette histoire de plantation, a-t-il fait l'objet d'un quelconque intérêt scientifique? La réponse est non. Le sol, grand invisible de nos écosystèmes, a une fois de plus été mis de côté. Pourtant, la majorité de ce qui réside à la surface fait au moins une partie de son cycle dans les bas-fonds. Si le sol est en mauvais état, ou qu'il fait l'objet de mauvais traitements, cela serait potentiellement très impactant sur tout être vivant. Les objectifs de cette étude sont pourtant clairs. Ils visent l'élaboration de politiques visant à inciter les parties prenantes à adopter, financer et maintenir des actions de verdissement dans les villes, même si elles sont relativement petites. Pour y parvenir, cette étude se veut aider les architectes, les ingénieurs, les promoteurs et les planificateurs à concevoir des espaces verts qui profitent aux humains et aux autres espèces. Peut-être qu'une prochaine étude intégrera ce qui manque continuellement à l'aménagement de nos villes. La considération de l'écosystème sol comme la fondation de tout écosystème terrestre et non comme un simple matériau de construction. L'infiniment petit se cache et rampe dans des contrées encore peu connues. Ces minuscules créatures se glissent dans les interstices, parfois dans des zones que nous n'aurions jamais soupçonnées, pour y former de fascinantes communautés. Que diriez-vous de plonger dans un tapis pour inventorier le vivant qui s'y trouve? Tendons la feuille un instant, voulez-vous, à un récit fantastique. Le peuple du tapis. Préambule. Ils s'étaient baptisés les Munhung. Cela signifie le peuple ou les vrais hommes. C'est un titre dont tout le monde se gratifie au départ, Et puis un jour, une tribu en rencontre une autre et lui donne un nom, l'autre peuple. Par exemple, ou si la journée ne s'est pas bien passée, les ennemis. Si seulement ils pouvaient avoir l'idée d'inventer un nom, comme d'autres vrais hommes, ils éviteraient bien des problèmes par la suite. Non que les Murung soient en aucune façon primitifs. Forficule répétait toujours qu'il possédait un riche héritage culturel autochtone. Des histoires, il voulait dire. Forficule connaissait toutes les vieilles légendes en un grand nombre de nouvelles, et il les leur contait, tandis que la tribu entière l'écoutait, captivée, et que les feux de camp croulaient en cendres dans la nuit. Parfois, il semblait que même les poils imposants qui s'élevaient le long de la palissade autour du village l'écoutaient. Il semblait venir plus près. La plus vieille histoire était la plus courte. Il ne la racontait pas souvent, mais toute la tribu la connaissait par cœur. C'était une histoire narrée en bien des langues à travers le tapis. Au commencement, racontait Forficule, n'existait qu'une étendue plate à perte de vue. Alors vint le tapis, qui couvrit les platitudes. Il était jeune en ce temps-là. Aucune poussière n'encrassait ses poils, qui étaient minces et droits, et non tordus et sales, comme ils le sont de nos jours. Et le tapis était désert. Alors vint la poussière, qui plut sur le tapis, flottant entre les poils, s'enracinant dans les ombres des profondeurs. Il en vint davantage, neigeant avec lenteur, en silence, entre les poils qui y attendaient, jusqu'à ce qu'une grande couche de poussière règne sur tout le tapis. De la poussière, le tapis nous a tous tissés. D'abord vinrent les petites créatures qui élisent domicile dans les combes et dans les hauteurs des poils, puis vinrent les sorates, les taraudeurs de trames, les trompes, les chèvres, les pipgroms, les snargues. Désormais, la vie et le bruit régnaient de par le tapis. Et la mort et le silence aussi. Mais sur le métier de la vie, un fil manquait à la trame. Bien que regorgeant de vie, le tapis n'en était pas conscient. Il était, mais ne pensait point. Il ignorait même sa nature. Et c'est ainsi que nous fûmes produits, par la poussière, nous, le peuple du tapis. Nous avons donné au tapis son nom et nous avons nommé les créatures vivantes et le motif s'est achevé. Nous étions les premiers à donner un nom au tapis. Désormais, il était conscient de sa propre existence. Le grand découdre, qui est tout ce qui vit sur le tapis, peut bien nous fouler aux pieds, les ombres nous envelopper, une grande vérité demeure. Nous sommes l'âme du tapis. Née de sa sourde envie de tisser. Bon, ça reste une simple métaphore, bien entendu. Mais personnellement, ça m'épate toujours. Pas vous ? Et si le tapis était notre sol. Et si la civilisation qui habite le tapis et qui l'a nommé, lui a donné vie, était la myriade de micro-organismes, d'insectes et toute forme de vie vivant dans le sol, le mystère demeure. Toutefois, si les idées fusent sous le tapis pour recréer une civilisation, d'autres ont saisi le sujet des insectes pour faire mouche.
Les insectes sont nos amis, il faut les aimer aussi, mais connaissez-vous...
Pour les curieuses et curieux de ces énergumènes à pattes, l'exposition Insectes au service des écosystèmes est proposée à l'Arboretum de Versailles jusqu'au 3 novembre. L'objectif de cette exposition gratuite en plein air est de faire découvrir la diversité et le rôle des insectes pollinisateurs parmi les milliers d'espèces d'arbres du monde entier qui occupent ce fameux arboretum. Si vous n'avez pas l'envie d'aller si loin, le séminaire d'entomologie du CPIE de l'Oise propose également en libre accès un bon nombre d'activités début octobre à Senlis. pour que le plus petit être qui vit et danse soit source intarissable de connaissances sur le monde des grands aux feuilles tendues.
Les insectes sont nos amis, il faut les aimer aussi. Comme nous, ils ont une âme, comme mon paquet nous charme. Les insectes sont nos amis, il faut les aimer aussi. Comme nous, ils ont une âme, comme mon paquet nous charme. Comme nous, ils ont une âme, comme mon paquet nous charme.
Tu y as pêché où? Baobab à cajou.
Cette série reviendra au gré de la pousse du chou. La semaine prochaine, retournons en sortie de champ pour nous nourrir du vivant. Direction le Bhoutan.
Des landes palissandres, mes lèzes tremblent, tremblent être noyées.